RTL. RTL, il est 2h.
On refait la télé
avec Éric Dussard et Jade, la rediffusion.
Bonsoir à tous, bonsoir Jade.
Bonsoir Éric, bonsoir tout le monde.
Jusqu'à 20h, c'est le meilleur du meilleur de Refait la télé. Et on préfère vous prévenir tout de suite, ce soir ça va envoyer. On aura Gérard Darmon.
Ah oui.
Vous savez comme il est. Il a une allergie très sévère à la langue de bois. Donc il avait envoyé le bois, justement.
Hein. On retrouvera aussi deux personnalités qui ont travaillé ensemble, le Bernard Campan des Inconnus et Laurence Boccolini, qui avait animé leur émission de radio.
On va commencer justement avec elle, Laurence Boccolini, redoutable animatrice du cultissime Maillon Faible. Un rôle de méchante qui lui avait valu bien des problèmes à l'époque. Hein. Elle nous l'avait raconté.
Archive ou archifaux?
Bon, vous connaissez le principe, hein, vous nous dites archive si vous pensez que c'est vrai, vous pensez que c'est du mytho, vous nous dites archive faux.
Un candidat du Maillon Faible vous a dit que George Michael était le père de la psychanalyse. Archive ou archive faux?
Archive.
Oui. Elle s'en souvient bien.
Ah bah oui, ça je m'en souviens.
C'est en effet l'une des nombreuses réponses de légende que vous avez entendues lorsque vous présentiez le Maillon Faible.
Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse?
George Michael.
Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France?
Charles Ingalls.
Si les abeilles volent en essaim, en quoi se regroupent les sardines?
En boîte.
Quel leader étudiant de mai 68 était surnommé Danny le Rouge?
Danny Brian.
Quelle est la femelle du lièvre?
La levrette.
Mauvaise réponse.
Alors que c'est la haze, hein, on le rappelle.
C'est la oui, c'est la, bien
ah, elle est mal,
sûr.
La peau, la candidate, elle pouvait plus faire son marché, l'homme.
Avec le Maillon Faible, votre notoriété explose au début des années 2000. Le problème, c'est que certains confondent votre personnage dans l'émission avec la vraie Laurence Boccolini.
Résultat, pas nouveau, hein, oui.
Vous le racontez dans le livre, hein, il n'est pas rare que vous fassiez insulter dans la rue.
Oui.
Jette pierre aussi contre votre maison.
Oui.
Le pire, ça, vous l'aviez encore jamais raconté.
Non, j'ai jamais raconté, ça m'est, voilà, des trucs qui me sont revenus.
C'est qu'un jour, on a carrément essayé de vous empoisonner dans un restaurant.
Ils ont raté, dis donc. Oui. J'habitais donc à la campagne toute seule, je sortais très peu, c'était très compliqué. Je faisais même plus mes courses, parce que, comme vous venez de le dire, c'était pas rien. Hein. Je me faisais insulter tout le temps, en face, à 5 cm. Et là, j'ai un invité qui me dit « Non, mais on va aller déjeuner. » Bon, habitant à la campagne, il n'y avait pas grand-chose à côté, il n'y avait qu'un grand centre commercial où il y avait une grande chaîne de restaurants qui était là, et moi, je traîne les pieds en me disant « Oh non, mon Dieu !» Donc, je mets une casquette, des lunettes, ce qu'il ne faut absolument pas faire, parce que tout le monde vous voit avec une casquette et des lunettes. Et on s'installe près de deux ficus en plastoc. « J'ai pas faim, je veux juste un café. » Et je sais que les serveurs m'ont reconnu. Je sais.
Et ils se disent, c'est celle du Maillon Faible, c'est la méchante.
Je sais, je vois leur regard. Mais je me dis, bon, c'est les regards habituels. Et on me sert un café. Et quand je commence à boire le café, j'ai l'impression que je bois du feu. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon café. Je me dis, il y a un produit chimique, il y a du piment, il y a du poivre. Je reste comme ça, mon invité me dit, je lui ai dit, goûte. Et il goûte, il reste absolument pétrifié et il me dit « Surtout, fais pas de scandale !» Ce qui était la chose à pas faire, parce qu'il aurait fallu faire un scandale.
Mais il aurait fallu dire « Qu'est-ce que vous avez fait là ?»
Voilà. Et je vois le regard des serveurs, un peu satisfait, du genre « Ah, elle l'a bien cherché !» Elle a pris son café, voilà. C'est, pour moi, c'était terrible. J'ai pas fait de scandale, j'ai rien fait.
Vous avez rien dit, vous êtes parti comme ça, un peu précipitamment, sans finir le café, j'imagine.
Sans finir quoi que ce soit, et je crois, je sais pas, 6 mois après, j'ai reçu un mail de cette chaîne de restaurants qui me disait « Oui, on a appris, on est bien désolé, on vous offre un repas pour deux. » Mais j'aurais pu, c'est-à-dire, là, c'était vraiment, c'était dommageable, parce que j'aurais pu être allergique, j'aurais pu m'étouffer, j'aurais pu avoir une brûlure de l'œsophage, j'aurais dû, il y avait un poste de police dans ce centre commercial, il suffisait que je dise « Je veux appeler la police, ils auraient constaté avec ma tasse à café, mais j'ai rien fait.
Allez, autre archive ou archive faux?
Vous avez chanté Hôtel California avec les Eagles dans une émission de TF1. Archive ou archive faux?
Archive faux.
En revanche, parce qu'on est tordu, vous avez chanté un autre
Surtout
titre.
Surtout vous.
Vous avez tordu?
Pas du tout.
J'aurais bien aimé chanter avec les Eagles. Hein, quand même.
Non, mais vous avez chanté un autre titre du groupe californien ici sur RTL pour les 30 ans des Nocturnes de notre ami Georges Lang en 2003.
Avec Beverly.
Desperado.
Desperado. Oh, you ain't getting no younger. Driving you
discothèque. Beverly Joe Scott, hein, Beverly Joe Scott.
Que faisait les chœurs, ouais. Et même en duo, on peut le dire, avec vous, Richard Lornac au piano, et vous, Laurence Boccolini, comme toujours impeccable de justesse. Franchement, je vous le dis très sérieusement, vous êtes passé à côté d'une carrière de chanteuse.
Bah peut-être, je sais pas.
Que ce soit ici ou encore dans Masked Singer, d'autres émissions, à chaque fois que vous chantez, il se passe toujours quelque chose. Il y a pas un petit regret chez vous à pas aller plus loin ?
Si, mais moi j'ai fait de la radio parce que je pouvais pas faire de scène. Et après, quand la télé est venue, moi, ma sensation que j'ai quand je fais une émission de télé, c'est d'être sur scène. C'est jamais d'être à la télé. Je fais de la télé pour les gens qui sont dans la salle.
Pourquoi vous dites que vous auriez pas pu faire de concert ?
Bah, je sais pas, je me suis pas fait confiance à cette époque-là, j'avais un problème avec mon image, je me trouvais pas très rock'n'roll, je me suis dit, la radio c'est très bien, je vais me cacher. Et je parlerai quand même de musique.
Et merci beaucoup à notre copain Georges Lang qui allait fouiller dans ses archives perso pour retrouver ce live.
C'est
au
un
grand
amour.
Et Dieu sait s'il en a des archives.
Oui,
il y a trois jours, je pense. Il est descendu à la CAF pendant trois jours. Vous parlez de lui d'ailleurs dans Showtime. Vous racontez une soirée de folie que vous avez vécue avec Georges Lang à Los Angeles.
Oh bah oui, alors ça c'était épouvant. Enfin, il aime beaucoup Los Angeles. J'étais à Los Angeles en train de travailler et il m'appelle et me dit, je suis à Los Angeles aussi. Et il me dit, attends, on va se voir. Et il vient me chercher avec une énorme décapotable et son épouse et on a été manger un cassoulet. Et il dit ça, il n'y a que nous qui pouvons. Il faisait 52 degrés, on était en terrasse et on mangeait dans un restaurant de cassoulet.
Jade, Éric Dussard. On refait la télé sur RTL, la rediffusion.
Et nous sommes toujours avec Laurence Boccolini qui était venue nous voir pour un livre de confession très forte qui s'appelle Showtime.
Des confessions notamment sur les coups durs qu'elle a reçus dans ce métier alors qu'elle en a connu un autre depuis sa venue, son éviction des enfants de la télé. Mais revenons à ce livre où il est aussi beaucoup question de musique, sa grande passion. On lui a donc fait une interview blind test.
On va faire le blind test de votre vie. Vous devez reconnaître des chansons en rapport avec des sujets que vous évoquez dans votre livre.
Mince.
Premier titre. In every life we have
some trouble. Don't worry, be happy.
Oui. Et l'interprète, vous l'avez ?
Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bobby McFerrin.
Ça nous ramène directement au livre, hein, parce que Bobby...
Bobby.
Que vous appelez aussi parfois l'alien. Vous révélez dans votre livre Showtime, Laurence Boccolini, que vous avez une tumeur rare dans l'oreille, la gauche, c'est ça ?
Oui, depuis des années. Et c'est une genre de c'est des tumeurs qu'on touche plus. Avant on les opérait, mais les gens ont...
C'est trop dangereux en fait. On peut
c'est
pas
beaucoup
vous
trop dangereux parce qu'avant ça s'opérait. Ils osent plus toucher à cet endroit-là. C'est dans l'oreille, c'est près des nerfs, et les gens se réveillaient avec des paralysies faciales. Et donc moi la mienne elle est très 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 mal placée. C'est-à-dire qu'elle est dans les nerfs mixtes qui régissent l'épaule, la voix et la déglutition, et elle est près des nerfs faciaux, c'est-à-dire du nerf facial, c'est-à-dire qu'après vous avez une paralysie. Donc ils y touchent pas. La seule solution, c'est d'emboliser, c'est-à-dire de couper la nourriture qui arrive dans la tumeur en bloquant tous les petits vaisseaux. Ça, on l'a fait il y a plus d'un an.
Pour qu'elle ne grossisse pas.
Ouais, il y a eu 6 heures d'intervention, c'était très compliqué.
Elle n'est pas cancéreuse,
non,
cette tumeur.
Non, elle ne peut pas se métastaser. Elle n'est pas cancéreuse, elle est très embêtante.
Très invalidante parce qu'elle vous provoque des acouphènes.
Ouais.
Ce sont des bruits parasites. Qu'est-ce que vous entendez, en fait, vous, précisément?
Alors, c'est très simple. Vous savez, quand quelqu'un va faire une échographie du cœur ou quand elle est enceinte, la dame est enceinte, on fait un Doppler et vous entendez... Donc ça, vous l'avez, puissance 1000 dans l'oreille, H24.
Ça vous laisse jamais tranquille?
Non, jamais.
Ni là, par exemple, en ce moment, vous en avez...
Oui, bien sûr. Ni la nuit, ni le jour. La nuit, c'est embêtant parce que si vous réveillez la nuit, vous pouvez pas vous rendormir. Et puis, se rajoute par-dessus certains acouphènes, où les gens souffrent aussi. Vous avez les sifflants. C'est-à-dire, vous savez, comme si vous avez du 1000, alors en radio, 1000 à la télé, c'est une espèce de qui fait ça en permanence. Donc j'ai ça, qui s'est rajouté. Et vous pouvez avoir des bruits annexes, comme par exemple quand je dis à ma fille, ça a sonné, et qu'elle me dit non.
Là, vous en parlez avec beaucoup de légèreté, mais ça vous pourrit la vie.
Mais bien sûr, ça me pourrit la vie. Moi, je pensais pas que j'aurais des années à vivre avec ce truc, et puis il va falloir que je vive avec lui. Mais vous vous dites, je suis fatiguée, quoi. Vous dites, j'en peux plus, parce que je me bats contre tout, je me bats contre lui, il me lâchera jamais. Voilà, il me lâchera jamais. Donc on espère que dans un an, à l'IRM, Bobby fera plus que la moitié de lui-même et que ça réduira sur le bruit, mais on ne peut plus faire autre chose. C'est-à-dire que l'embolisation n'a absolument pas marché, alors qu'elle a réduit le bruit sur certaines personnes. Moi, ça n'a pas pu marcher. Et donc, j'ai fait une radiothérapie particulière, voilà.
Laurence, vous êtes allée sur Internet depuis l'annonce de cette tumeur dont vous souffrez. Est-ce que vous avez vu tous les titres sensationnalistes auxquels ça a donné lieu sur Internet ou pas? Vous le saviez, c'était le risque à prendre?
Oui. Bah oui, dès qu'on met un truc, il y a des journalistes comme vous, comme d'autres, qui vont s'intéresser au livre, et puis d'autres qui ont envie, de parler que de la tumeur, donc pour faire peur à tout le monde en disant « elle va mourir », et puis d'autres qui sont déçus aussi que je balance pas. Il y a une journaliste qui m'a dit « j'ai beaucoup aimé votre livre, mais je suis quand même très déçue ». parce que moi, je m'attendais quand même à ce que vous balanciez sur les coulisses de la télé. J'ai dit, mais d'abord, hein, moi, balancer, je sais pas faire. Deux, c'est pas un règlement de compte, c'est pas un livre de vengeance, c'était pas un livre pour de name dropping, c'était un livre qui m'appartenait à moi, où je me disais, voilà, je partirai pas sans dire ce que j'ai à dire.
Laurence Boccolini, on reprend le blind test de votre vie. Est-ce que vous reconnaissez cette chanson ?
C'est Madonna ?
Et le titre ?
Like a Prayer ? Non, c'est quoi ?
Frozen de Madonna.
Ah, Frozen ! J'adore cette chanson. Je ne suis pas très Madonna. Je vous
Adjectif dis. Frozen, gelé en français, qui revient souvent dans Showtime,
oui,
pour décrire votre absence de réaction face à des situations pourtant révoltantes. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre. On va en citer un, ce jour où vous déjeunez avec une productrice qui veut vous proposer une émission.
Ça, bon, déjà, ça a choqué tout le monde.
Elle ne vous emballe pas à la base.
Oh non, ben non, attends. Le truc genre le froufrou moins le quart de chez Shane, excuse-moi, on
m'a proposé
100 fois.
Mais c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est le scud de cette productrice. Va vous envoyer en plein déjeuner.
Mais oui, elle nous appelle, elle nous fait déjeuner avec une camarade de jeu qui a un peu la même corpulence que moi je trouve très jolie. Et on déjeune, elle nous tartine de compliments, vous allez être formidable. Moi, ce projet, je sais qu'il ne se fera pas parce qu'on me l'a proposé 150 fois, ce genre de truc. Et juste à la fin, elle lance ce truc en disant, il y aura machine avec vous. Je ne me rappelle plus du nom de machine et j'ai rien contre machine. Et nous, on se dit, ah bon, ben alors, on a passé 2 heures, mais pourquoi elle arrive à la fin, machine ? Décontractée, elle nous dit, ah ouais, mais il faut bien que j'en mette une belle avec vous deux. Et moi, je crois que j'ai dit, ah oui, ok. Parce que ce jour-là, j'étais à côté de moi, mais j'étais pas avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je dirais pardon.
Vous restez interdite, comme en état de sidération, anesthésiée, quoi, on pourrait dire.
Oui.
Ça finit bien par remonter, ça, après, quand vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas en colère ?
Mais si, vous êtes en colère. Moi, ce métier, j'ai une image très, très forte de ce métier. Ce métier, souvent, quand vous rentrez le soir, vous avez l'impression d'être griffé de l'intérieur. Ça se voit pas dehors, mais dedans, c'est comme si vous aviez été ramasser des murs sur le bord de la route, que vous aviez ramassé les murs parce qu'elles étaient belles, et vous rentrez, vous avez tout griffé, ça pique de partout. Et en fait, voilà pourquoi vous dormez pas, voilà pourquoi vous êtes angoissé, voilà pour vous accepter des choses que vous auriez pas acceptées. Pourquoi parfois vous acceptez des projets que vous devriez pas accepter, alors que vous savez que vous allez vous faire du mal, mais vous le faites.
Bon petit soldat.
Grave. Ouais.
Je vous cite dans le livre, soyez odieux, capricieux, colérique, car c'est ceux-là qu'on respecte dans les médias.
C'est vrai.
Il y en a tant que ça ?
Il y en a. Ouais, il y en a, bien sûr. Ceux-là, on les embête pas. Hein. Parce que souvent, au-dessus, on confond la espèce de folie des gens qui hurlent sur les plateaux, sur les assistants, comme ça, qui sont complètement hystériques, qui ont des caprices de diva, avec une espèce de talent artistique fou. Mais non, c'est pas ça le talent. Moi, je vais vous le dire. Le jour où les cadreurs, ou les mecs du son, ou le monsieur qui a bien accroché votre micro, ou les assistants écriront un bouquin, ce seront les seuls que vous pourrez croire. Parce que eux, ils voient tout, ils entendent tout, ils sont là avant nous, ils sont là après nous, ils entendent les disputes, ils entendent ce qu'on nous dit.
Eux, il n'y a pas de faux semblants.
Ils peuvent pas. Ils entendent tout. Mais eux, ils sont témoins de ceux qui les maltraitent et de ceux qui sont cool. Ils ne se trompent pas, hein.
Laurence, pour le blind test de votre vie, on a également choisi cette chanson. Est-ce que vous la reconnaissez ?
Elle panique d'Olivier Ruiz. Manière d'évoquer avec vous la panique que vous connaissez bien, Laurence Boccolini. Vous y revenez dans Showtime.
Oui.
Depuis votre adolescence, vous souffrez de crises de panique, d'angoisse.
Oui.
Vous écrivez, par exemple, qu'il vous est déjà arrivé de devoir ramper dans la loge de votre plateau télé pour vous planquer derrière un porteur de vêtements.
Quand ça arrive, c'est terrible. Les gens qui ont des crises de panique, c'est une sensation de mort imminente. Hein. Alors ça, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas en train de mourir, votre cerveau vous dit « si ». C'est un truc de fou.
Pour contrer ces anxiétés, je crois que vous avez des petits bracelets.
Ah oui, j'ai des bracelets. Oui, parce que c'est une phrase que j'adore, c'est « ton anxiété te ment ». Et l'anxiété, c'est un gros mensonge, en fait.
C'est Lucien, votre cerveau.
Il y a Bobby dans l'oreille, il y a Lucien, mon cerveau, qui me ment tout le temps et qui me dit que je vais avoir une crise et que ça va arriver au milieu de la rue. C'est très compliqué parce que c'est des symptômes où les gens qui vous entourent disent « faut appeler le SAMU ». Mais pas du tout. Le SAMU, il arrive, il n'y a rien du tout.
Alors, vous avez tenté une fois une séance de relaxation. Alors, elle n'a pas été couronnée de succès.
Oh non.
Vu le récit hilarant que vous en faites dans votre livre. On a un extrait, Jeanne.
Oui, quand on vous dit « visualisez l'air qui pénètre vos narines, emplit vos poumons ». Alors là, vous vous dites intérieurement, Mais cette phrase est très moche. Les mots sont moches.
Oui.
Ça me coûte combien encore cette séance?
Oui, oui, oh là, c'était pour passer les IRM. Il fallait faire de l'hypnose. Il fallait faire. Mais non, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer sur moi. J'arrive pas à me relaxer. J'ai jamais été détendue. Donc moi, vous me mettez dans une heure de séance où la dame parle comme Evelyne Pagès à la grande époque. Au début, je trouve ça super chouette. 5 minutes après, elle me demande de trouver un endroit safe dans ma tête. Je sais pas où aller. Je tâtonne. Je suis en géographie. C'est pourri. Voilà.
Dernier titre de ce blind test de votre vie, Laurence, une chanson qui a aussi été un générique d'émission de télé.
Le groupe, c'était The Rasmus, le titre In the Shadows, devenu le générique du talk show du samedi soir de Laurent Ruquier pendant de nombreuses années. Vous revenez dans Showtime sur le calvaire, on peut dire ça comme ça, hein, que vous avez vécu dans On n'est pas couché en 2008, alors que vous veniez présenter un livre dans lequel vous nous expliquiez.
Un témoignage, pas, c'est pas un œuvre littéraire, mais c'est un témoignage.
Ne pas réussir à avoir d'enfants.
Ce soir-là, le duo Éric Nolot-Éric Zemmour se montre impitoyable avec vous. Voici quelques-unes des nombreuses critiques qu'il vous avait assénées.
Moi, je trouve que vous essayez vraiment de faire pleurer dans les chaumières. Je trouve que vous avez franchi les limites. Moi, j'ai été choqué.
J'ai eu besoin de l'écrire. Si vous trouvez ça choquant et peut-être que ça vous gêne...
C'est la rage de la confession, moi, qui me...
Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Les gens n'ont pas un droit à l'enfant. Un enfant, ce n'est pas un objet de consommation qu'on achète. Il n'y a pas un droit à l'enfant. Ça n'existe pas, ça.
Ce droit à l'enfant, ça m'a achevé parce que... Le lendemain de la diffusion, il y a des associations d'adoptants qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Vous pouvez pas laisser passer ça ». C'est toucher la douleur de pas pouvoir avoir d'enfant. Et je raconte, parce que ça dure, c'est une soirée qui n'en finit pas.
Oui, vous arrivez à 18h, vous passez en plateau à 23h.
Je suis en plein traitement, je m'assois comme une nouille et je souris. Et Laurent dit 3 mots gentils sur mon bouquin et boum, je me prends ça. C'est juste que je payais le fait d'être à TF1, d'être une animatrice, de pas avoir la carte. Moi, je suis sortie de là et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces deux personnes?
Évidemment, on finissait par craquer devant un tel acharnement. Il y a quelques larmes qui coulent. Là, vous entendez une phrase dans le casque d'un cadreur.
Hein. En fait, moi, j'ai jamais pleuré sur un plateau parce que c'est mon métier et je sais où sont les axes de caméra. Et je sens un à côté de moi et je sens que c'est le cadreur avec la caméra épaule qui est là pour me prendre très près. Et il a son casque un peu désordre de travers. Et j'entends la voix dire « Rapproche-toi d'elle, elle chiale ». Et je vois apparaître soudain une assistante qui me met une boîte de Kleenex.
Comme si tout était parfaitement organisé.
Et je ne me rends pas compte, je chiale. Enfin, je ne me rends pas compte, je pleure. J'essuie comme quand on est à l'école et qu'on a un gros chagrin. Et je me dis, mince, t'es en train de pleurer.
Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les équipes de production après pour leur dire votre indignation?
Je suis allé voir personne après. J'ai remonté l'escalier. Il y a un garde du corps qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, je vis la même chose avec ma femme. On est désolé pour vous. Il y a un comédien qui était en train de descendre qui m'a dit, mais c'est qui ces deux connards? C'est très drôle.
Vous auriez dû peut-être aller voir la production, non? Pour dire que vous étiez très content de la manière dont vous avez traité.
Non, j'aurais dû prendre mon micro, poser et dire, vous savez quoi, je me casse. Il y en a qui l'ont fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait?
Est-ce qu'après ça, vous avez eu des réticences à accepter d'autres interviews?
Absolument toutes. C'est mon premier livre après ce livre. Je n'ai jamais plus écrit. Je ne pouvais pas. Parce qu'après, il faudra que j'aille dire sur le plateau. De quoi parle mon livre? Si ça recommence, je ne pourrais pas le supporter.
Showtime, Souvenir du chaos, c'est aux éditions Kero.
On refait la télé. Avec Éric Dussard et Jade. La rediffusion.
Je voudrais seulement te dire que je veux te voir sourire. Je n'ai pas plus à te dire que je t'aime et te trop fort. pas vraiment plus à te dire. Que je t'aime à en mourir. Quand la musique est trop forte, que ta bouche rien ne sort, tu ne m'entends pas. Il suffit d'un sourire et le silence est pire. Est trop forte quand le son nous emporte. Tu n'entends pas. Il suffit d'un soupir, mais le silence est pire. Tu n'entends pas. Quand la musique est trop forte et qu'on cherche les accords, tu n'entends pas. Il suffit d'un soupir, mais le silence est pire. Tu n'entends pas.
Jade, Éric Dussard,
on refait la télé sur RTL, la rediffusion.
Jade, est-ce que ça vous dirait de danser une petite carioca?
Ah, toujours partante, mais seulement si c'est avec Gérard Darmon.
Bah, vous auriez dû lui demander quand il est venu nous voir.
Mais je lui ai demandé.
Et il a refusé. On avait revisité avec lui quelques moments clés de sa carrière, de Louis de Funès à Alain Chabat. Voici le CV TV de Gérard Darmon.
Le CV télé.
Des extraits de films, d'émissions qui ont marqué votre carrière et qui mériteraient donc de figurer en bonne place sur votre CV, Gérard Darmon. Oui. À vous d'essayer d'identifier ces extraits grâce aux indices que Jade va vous donner.
Wow.
Et pour le premier extrait, les indices sont film et deux mots. Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Peut-être le premier, peut-être Rabbi Jacob, non? La mort.
Oui, elle est fort, elle est fort.
Je suis fort. Hein.
Inoubliable musique des aventures de Rabbi Jacob, ouais. Dans lequel vous avez tourné donc à vos débuts. Vous étiez l'un des hommes de main du méchant Fares,
oui.
Mais on vous a plus vu qu'entendu, puisque oui. Vous n'avez que deux mots dans ce oui. Film.
La mort.
On va écouter
ça. C'est sympa de commencer par ça, hein, oui. sa vie cinématographique.
Je te déclare traître à notre gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouic?
Messieurs, votre verdict.
La mort.
C'est court, ouais. Mais c'est bien.
Ben oui, c'est court, mais c'est bien.
C'est intense, intense comme la douleur à l'œil que vous avez ressenti lors oui. De la fameuse scène.
Aux deux yeux.
Les deux yeux, carrément, la cuve de chewing-gum qui, en fait, n'en était pas. Hein.
C'est de la pâte à crêpes, mais c'est surtout le colorant qui avait dans la pâte à crêpes qui nous a atteint. Je dis nous parce que De Funès aussi a eu...
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Il y a eu un décollement de la cornée. Donc c'était très très douloureux, j'ai l'impression d'avoir des poignées de sable dans les yeux, c'était un temps dans les yeux grenat tellement on était voilà, et on a eu le même ophtalmo, il nous a donné le même traitement et on se mettait des gouttes chacun dans
C'est ça parce
dans
que vous, quand respectifs. Ça vous arrive tout le monde s'en fout, mais il arrive la même chose le lendemain à Louis de Funès.
Ah là, la terre entière s'arrête. Moi j'étais une merde. Donc je pouvais crever avec mes deux yeux hors de leur orbite et qui pendent et tout ça, on s'en fout. Mais alors une poussière dans l'œil de Funès, il fallait on a tout arrêté, c'était bien sûr.
Deux mots seulement dans Rabbi Jacob et pourtant ce rôle n'a rien d'anecdotique pour ce qu'il a de symbolique pour vous. La directrice de casting a cru en vous, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque.
Oui.
Vous dites, Gérard Darmon, qu'à vos débuts vous avez souffert d'un délit de faciès.
Parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était l'époque des blonds aux yeux bleus, des jeunes premiers un peu lisses, des choses comme ça. On était dans ces...
Vous
dans
dites
ces
ça me renvoyait à mes origines, moi le fils d'immigré, à ma judéité, à toute mon identité.
Oui, oui, alors après on y met tout ce qu'on veut dans le sac parce qu'on a envie de... Voilà. Mais bien sûr, c'est exactement ça, on le ressent, c'est une vraie blessure.
C'était comment d'être un enfant juif dans les années 50 en France?
Écoutez, franchement, c'était plutôt à côté du marasme et de la violence. que l'on a actuellement, c'était plutôt ça allait quoi. C'était pas. Enfin, il y avait encore une espèce de fumée comme ça de la guerre qui était pas si loin que ça. Donc, fallait pas trop non plus le dire. Je me souviens de la prudence de mes parents qui par pure peur disaient non mais c'est pas la peine de le dire, mon chéri, c'est pas bon.
Vous avez un second prénom qu'on emploie assez peu, oui. Et qui est plus marqué.
Élie, ouais, absolument. Et qui n'a même pas été déclaré par peur de représailles. Mais oui, ils étaient traumatisés, eux. Ils avaient de quoi, quand même, les parents. Mais non, ça allait, vous savez, les quelques... Il y avait toujours une espèce d'antisémitisme un peu benoît, c'est-à-dire que, bon, c'était de bonne guerre, les expressions, tu manges comme un juif, ou des petites choses comme ça, vous faisiez mal au coude, vous faisiez mal aux petits juifs... Bon, c'est des choses qui
étaient... Une forme de racisme ordinaire,
oui,
autorisé.
Voilà, ouais.
Vous l'évoquiez il y a un instant, la montée de l'antisémitisme en France, qui se montre comme jamais actuellement. Comment vous vous sentez, Gérard Darmon, en tant que juif dans cette France de 2025?
Ah, je me sens pas très bien à ce niveau-là. Et je suis vraiment très privilégié. Non, je ne ressens pas très bien. Je vois pas quelqu'un de la communauté aujourd'hui dire non, je suis très heureux en France. C'est et pourtant, moi, j'ai persisté, j'ai signé pour dire que la France n'était pas un pays antisémite. Il y avait des antisémites, mais ce n'était pas un pays antisémite vraiment ou raciste, tout ça. Vous voyez.
Mais vous sentez tout de même un changement de climat depuis quelque temps.
Ah ben oui, si je le ressens pas, c'est qu'il faut que j'aille me faire j'aille dans un EHPAD, parce que franchement. Non, ça devient tragique. Moi, je suis allé en Israël deux fois cette année. On me l'a suffisamment reproché. J'ai été plus qu'insulté sur les réseaux sociaux. Alors, je rassure ceux qui ont les putaclics, là, ceux qui ont le doigt facile sur le clavier. Je n'ai plus du tout tout ça. Donc, je ne lis plus tout ça. Donc, vous allez écrire des saloperies pour rien parce que je ne lirai pas. Voilà.
On retourne à un sujet plus léger.
Ouais.
Allez, alors, nouvel extrait à deviner.
Alors, si je vous dis, veux-tu danser là?
Carioca.
Bien sûr. Ouais. Scène culte du film culte des nuls en 1994, La Cité de la Peur, dans lequel vous étiez un commissaire soudainement pris d'une irrépressible envie de danser.
Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau.
Sais-tu danser la carioca?
Non.
Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
Youpi, dansons la carioca. C'est bien.
Cette légendaire carioca dans la Cité de la Peur, c'était il y a plus de 30 ans. On vous en parle encore aujourd'hui, Gérard Darmon, de la carioca?
Ah oui, bien sûr, ça. Vous voulez pas un whisky? Voilà.
Il paraît qu'on vous demande même souvent de la faire lors des avant-premières, cette carioca. Oui, vous l'avez faite avec des acteurs qui n'étaient pas du tout concernés.
Oui, parce qu'ils pensent les gens qu'on connaissait. C'est comme ça. Ça nous a demandé deux mois de travail avec Chabat, au quotidien, parce qu'on était rouillés, très rouillés, avec une chorégraphe américaine.
Ça a été du boulot, quoi. Hein.
Oui, ça a été du vrai boulot. Du vrai boulot. C'était au millimètre près. Hein.
Allez, avant d'accueillir Eva Kruver pour ses infos télé de la semaine, dernier extrait de votre carrière que vous devez reconnaître.
L'indice est 10 ans déjà. Est-ce que ça vous rappelle une émission?
10 ans déjà.
10 ans déjà.
Alors ça, c'est ça. Alain est venu, il a mis du temps à venir me voir pour me le proposer.
Alain Chabat.
Il n'arrivait pas à aller au bout de la phrase en me disant non, mais tu sais, alors voilà, c'est-à-dire que. Bah, c'est-à-dire qu'on veut dire 10 ans après, c'est, j'ai dit, mais qui c'est quoi, là? Il dit, non, mais c'est, on va dire que t'es mort il y a 10 ans, et on fait une spéciale, mais j'ai même pas laissé finir sa phrase, j'ai dit, mais bien sûr que oui.
Ah, vous avez accepté tout de suite, hein?
Ah, tout de suite.
Bon, on va l'écouter, alors.
Il savait nous faire rire, il savait nous émouvoir, nous concerner aussi, sur des sujets plus graves. Peut-être savait-il tout simplement toucher le cœur des hommes. Bonsoir. Gérard Darmon, 10 ans déjà. Pour cette émission spéciale et pour lui rendre hommage, j'ai réuni des amis de Gérard. Il doit bien rire là-haut, en tout cas.
Hein. Bah, il doit être là-haut avec les grands, quoi, avec Coluche, avec Tex, avec...
Exactement, avec...
Tex, non, il n'est pas mort, je crois pas. Hein? Je crois pas que...
Ouais, enfin, c'est une façon de parler, pardon, sois pas agressif.
Non, pas du tout, non.
Jean-Paul Rouve, Édouard Baird, c'était du grand art, un bel hommage de votre vivant.
Oui.
N'empêche que pour rire de tout ça, il faut être très détendu sur le sujet, c'est-à-dire que la mort ne vous angoisse pas, Gérard Darmon.
Ah, je suis pas très détendu sur le sujet, non, pas du tout. Mais c'est... Pas du tout.
Parce que d'autres auraient pris peur, auraient dit jamais, ça va me porter malheur.
Oui, j'aurais pu me le dire aussi, mais c'est comme dans la première fois que j'ai fait, je suis mort dans un film, j'ai eu peur, et puis, de toute façon, ils finiront bien par avoir raison. Hein. Je veux dire, c'est bien. Voilà. Je suis mort pas mal de fois dans les films. En contraire, c'est pour conjurer un peu le sort.
Vous êtes un amoureux de la vie ?
Non, mais c'est, tant qu'il y a un souffle de vie, bien sûr. Moi, vous savez, je fais partie des gens qui n'essaient même pas de tuer un petit moucheron qui est là. J'ai une histoire d'amour avec un moucheron, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Je sais que c'est pas le même, mais j'ai toujours, dans ma vie, je vous jure que c'est vrai, un moucheron qui vient et qui se signale à mon attention, et qui est là.
Vous fichez de nous, Gérard Darmon ?
Je vous jure que non. Je vous jure que non. Je me rase, un coup, je vois le moucheron arriver, il est là, et je n'engage pas de dialogue, hein. Je vous assure, j'ai pas bu, je ne suis pas défoncé.
Sinon, on appelle
je suis
la fermerie
d'Artel. Du tout. Non, je vous assure que non. Quand je l'aperçois, je fais « Ah, te voilà !» Voilà, ça, on en reste là.
Et lui a l'insolence de ne pas vous répondre.
Peut-être qu'il me répond, mais je l'entends pas.
Ah, il parle en moucheron, quoi.
Je parle très mal. Voilà, ça peut être dans une salle de bain d'hôtel, tout à coup, hop, il se met sur la glace sur laquelle je me rase. Je dis, t'es là.
Tu es là, mon ami.
Je vais sortir avec les menottes, j'en suis sûr.
Pas de moucheron dans ce studio, en tout cas, ce matin.
Non.
Voilà. Il n'a pas voulu venir à RTL ce matin.
Mais il n'est pas là.
Ah, et votre ami n'est pas là ce matin. Bon, écoutez, on va l'appeler, il va arriver. Hein. On n'a pas fini.
Parce qu'il sentait une espèce de, non pas d'hostilité, mais de moquerie profonde de votre part.
Qu'on aurait du mal à croire en cette histoire de moucheron.
Voilà. Mais donc.
On a vu votre sérieux, votre implication, et honnêtement, maintenant, on ne doute plus de votre sincérité.
Je connais. Merci beaucoup.
Quelle est la symbolique, d'après vous, de ce moucheron ? Qu'est-ce qu'on cherche à vous dire, Gérard Darmon ?
On cherche à me dire qu'il y a d'autres vérités que celles qui sont visibles, que les forces de l'esprit existent. Mais dis ce que tu veux, le principal c'est que tu me fasses exister.
On refait la télé
avec Éric Dussard et Jade, la rediffusion.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL. La rediffusion.
Alors, je vais vous dire, on nous avait bien dit que Gérard Darmon était cash en interview, mais on n'imaginait quand même pas à ce point-là.
Ah oui, c'est vrai qu'on le regardait avec des yeux de lémurien, là. Comme des soucoupes, tellement il envoyait. Particulièrement au moment où on lui a demandé s'il lui était déjà arrivé de tourner dans des films ratés.
Oui, 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 ça m'est arrivé. Pas énormément à mes yeux, même si parfois il était, j'en sais rien, mais en tout cas, des films ratés, oui. Parfois la mayonnaise ne prend pas, on ne sait pas pourquoi. Et on ne s'en rend pas spécialement compte quand on tourne, c'est ça qui est incroyable.
C'est après le montage ?
Oui, c'est quand on voit le film, quoi. On se dit, oh là, quelle daube, c'est une daube.
Et alors, comment vous faites quand un film ne vous plaît pas au final ? Vous acceptez quand même d'aller le promouvoir à chaque fois dans les médias ?
Non, non, pas spécialement. Ça m'est arrivé une seule fois. Le faire, parce que c'est une grosse production, ils étaient à cheval là-dessus, j'avais la mitraillette dans le dos, et je sentais qu'il valait mieux que je le fasse, donc je l'ai fait. Et parfois il m'arrive d'accepter des choses que je n'ai pas envie de faire, mais c'est tout. Non, non, sinon on fait pas, j'ai raté, c'est raté.
Oui, donc vous n'allez pas faire semblant et donner envie aux gens d'aller voir un truc que
mais
vous
oui,
avez aimé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez leur confiance, parce que si vous leur dites allez-y, c'est formidable, les gens ils vont y aller, puis ensuite ils vont dire mais c'est, il nous a raconté n'importe quoi, la prochaine fois on n'écoutera pas, puis c'est mort. Non, 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 je sais pas, il faut être honnête.
Le plus pénible quand on fait la promo d'un film, c'est de tomber sur un animateur qui n'a pas vu le film, non? Ça vous arrive?
Ah oui, non, mais ça c'est terminé, après je m'assois et je me lève tout de suite. Ah ben oui, non.
Vous le sentez tout de suite?
Un bouquin, un livre, un album, quand c'est le mien, moi, ça m'est arrivé. Alors, bonjour Gérard Darmon, j'ai pas encore eu le temps d'écouter votre album, mais t'as pas encore eu le temps d'écouter mon album? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me poser quelle question?
Vous leur dites comme ça?
Mais bien sûr.
Et alors, ils sont terrorisés?
Mais ils ne sont pas terrorisés. Mais très franchement, c'est une bêtise crasse, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu veux qu'on triche? Tu vas essayer de biaiser? C'est pour ça que ton interview sera fade, sans saveur et pas très intelligent. J'ai pas envie de faire ça avec toi. Écoute-le, puis on se revoit dans une semaine, si tu veux.
Même chose pour les films. Hein.
Mais évidemment.
Il y en a qui essaient de carotter, qui regardent les 5 premières minutes, on va dire.
Bon, on s'en rend compte très vite, très très vite. C'est, je trouve ça terrible de faire ça. Enfin... Moi, je peux pas aller interviewer quelqu'un si je n'ai pas vu l'objet de cette interview. Ça veut rien dire.
Il y a aussi l'inverse. Il y a ces journalistes, ça a dû vous arriver, animateurs de télé qui, eux, ont vu le film, mais en distro et révèlent tous les rebondissements du film.
Ah, bah oui, mais ça, que vous tombez sur des abrutis, ça peut arriver, hein.
Comment on fait pour essayer de pas griller la promo pour qu'ils n'en disent pas trop, quoi? On doit reprendre la parole très vite.
Bah, c'est un peu trop tard, quoi. Vous voulez que je fasse ce pitch ou vous le faites? Allez-y, faites-le. Qui raconte le film de A à Z. Mais c'est pas un pitch que t'as fait, là. T'as raconté le film, idiot.
Il n'y a plus besoin d'aller le voir.
Bah oui, c'est pas la peine.
Plus généralement, être invité à la télévision, ça vous amuse toujours autant qu'avant, ou vous êtes de ceux qui trouvent que c'est devenu un poil ennuyeux du fait de ce qu'on évoquait avant?
Un peu,
est devenu tiède, tout est devenu un peu suivant.
Ouais. Ouais, un peu, c'est un peu formaté, un peu. Moi, j'ai plus ce même plaisir, parce que parfois c'est un plaisir. Je parlais d'Ardisson, j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai dû le faire 12 ou 13 fois, tout le monde en parle.
C'était bossé, il y avait de la fantaisie.
Oui, il y avait un espace liberté formidable, même si parfois ça outrepassait. C'est toujours mieux que quand c'est coincé, censuré, quoi. C'est terrible.
On a retrouvé une émission de télé où vous étiez beaucoup amusé, Gérard Darmon.
C'était sur la chaîne Comédie en 2003, samedi soir en direct. Vous étiez déjà avec Valérie Le Mercier. Vous aviez fait un sketch où son rôle était diamétralement opposé à celui de fan collante qu'elle a dans le film. Là, au contraire, elle s'en prenait à ceux qui ne vous laissaient pas tranquille.
J'aime pas déranger, hein, vraiment. Sans déconner, j'aime pas... Vous pouvez signer un tout petit truc, c'est pour mon fils, il vous adore.
Sérieux. Non, mais attendez, non, mais écoutez, franchement, ça suffit, c'est pas possible de laisser un peu tranquille. Croyez que c'est amusant d'être connu comme ça tout le temps dans la rue, signer des autographes. C'est pas parce qu'on a une vedette qu'on appartient à tout le monde, merde. Et quand les projecteurs s'éteignent, il redevient anonyme. Ben oui, c'est Gérard Darmon, c'est une star. Ok, mais il pète le matin et j'en sais quelque chose.
Voilà, c'est du Valérie Le Mercier pur jus. Elle peut tout se permettre, elle. C'est jamais vulgaire.
Mais non.
Il y a une très belle réplique, hein, je ne vais pas en dire trop, mais dans le film, elle vous dit quand même vous êtes blanc comme une merde de laitier.
Une merde de laitier, ben oui.
Il y a qu'elle pour inventer
ça. Magnifique, ça. Ben ouais. Ouais, entre autres, ça en dit plein dans le film.
On refait la télé
avec Éric Dussard et Jade. La rediffusion.
Je
On refait la télé sur RTL, la rediffusion.
Avec maintenant une chanson qui avait dû être à l'époque justement un tube de l'été, je pense. C'est toi que je t'aime des inconnus.
Bien sûr, un titre pour lequel une immense star du rock a eu un coup de cœur lui aussi, Iggy Pop. Il l'a diffusé il y a quelques mois dans son émission de radio en Angleterre. Quand on a reçu Bernard Campan, il n'en revenait toujours pas.
Près plus 36 qu'un du là,
j'achèterai le Figaro,
je puiserai plus dans le lavabo.
Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime.
Vachement bon coup.
Alright, those were les inconnus. C'est toi que je t'aime. At one point he says, je pisserai plus dans le lavabo.
Quel hommage.
Je
pense que
pisserai plus dans le lavabo.
Vous n'y auriez pas cru à l'époque des inconnus si on vous avait dit qu'un jour Iggy Pop encenserait une de vos chansons, je pense. Hein.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec le temps, voilà, il y a certains sketchs qui durent et de par le fait qu'ils durent, deviennent un peu plus prestigieux. C'est vrai.
Que des tubes, les inconnus.
Nous sommes le sac, Contras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu bailles, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout.
As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut en flûte, crante en...
Chier.
Auteuil et Ipassi, c'est pas du gâteau. Auteuil et Ipassi, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien?
Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. De les yeux Isabella.
Isabelle a les yeux bleus. Il y en a un qui avait vu rouge, lui, en entendant cette chanson. C'est Nicolas Sirkis d'Indochine. Il avait trouvé cette parodie très dure. Avec le recul, vous reconnaissez que c'était peut-être un peu vachard?
Bah, c'est-à-dire que, oui, j'ai appris par la suite. En plus, eux étaient dans... Il a dit dans la presse, je sais plus... maintenant, ils sont au top, donc tout va bien. C'est ça qui est formidable. Mais à l'époque, il a dit, c'est le coup de grâce, ça a été la parodie des Inconnus.
C'était une période compliquée pour eux.
Bah ouais, évidemment, c'était très difficile. Donc moi, j'ai jamais... on n'a jamais voulu faire un sketch pour faire du tort. Et si on fait du tort, bah oui, là, on le regrette. On peut pas dire les choses autrement.
Hein. Vous l'avez croisé, vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui depuis toutes ces années?
Non. Je sais que j'ai juste appris comme ça que eux l'avaient mal vécu à cette époque-là. Il avait perdu son frère. Enfin, le groupe ne fonctionnait plus bien. Voilà, c'était une période de creux. Et en plus, nous, on arrive à faire les cons. D'ailleurs, c'était pas forcément Indochine. C'était Partenaire Particulier.
Ah oui, c'était Cartonnet aussi à l'époque.
Isabelle, Partenaire Particulier. Mmh. C'était vraiment une copie de Partenaire Particulier. Mmh. Et quand on a voulu passer à l'image, on avait inventé la chanson, il a fallu trouver des perruques. Et en mettant les perruques, on s'est transformé en Indochine. Et on a fait vraiment un peu les deux, quoi.
On va finir en beauté avec les plus grandes parodies des Inconnus dans leur émission des années 90, la télé des Inconnus.
Ça faisait des audiences énormes, quasiment 10 millions de téléspectateurs. Donc évidemment, tout le monde en parlait à l'école, au bureau. On était revenu avec Bernard Campan sur quelques-unes de leurs plus grandes parodies, et ce sous forme de blind test. Pour votre plus grand plaisir, Chad.
Ah oui.
Le blind test télé.
Alors aujourd'hui, on va jouer avec des génériques d'émissions ou de séries que vous avez parodiées avec les Inconnus, Bernard Campan. Donc ces génériques, eux, ils sont très connus. Donc ça devrait aller, Jade. C'est que
ah bah oui, ça devrait aller.
Que du collector.
Ouais.
En plus, on commence avec l'une de vos séries préférées que vous regardez au bureau.
Les vagues bleues du Pacifique.
Santa Barbara.
Santa Barbara. Bien sûr.
C'était Santa. Oui, j'ai pensé, mais
j'ai pris le couplet parce que le refrain aurait été trop facile.
Bah oui.
Santa Barbara, ouais. Que les Inconnus avaient rebaptisé.
Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça.
Ça te barbera, une parodie plus vraie que nature, y compris dans les costumes, les décors. Il y avait des gros moyens d'ailleurs pour cette télé des Inconnus, c'était Nos Limites.
Ah, c'était à la SFP à l'époque, Nos Limites non, mais c'était judicieusement bien préparé, oui. Nous on s'occupait beaucoup des perruques, ça je me souviens, on aimait bien.
Passion
ça.
Perruque, ouais.
Ouais, passion perruque. On allait à l'atelier, c'était Marie-Thérèse qui tenait l'atelier. Une dame, elle nous disait, allez-y, c'est pour vous. On avait toutes des rangées de perruques de partout, mais prenez, on les essayait, c'était super.
On passe maintenant une parodie d'émission culte de la télé française.
Des chiffres et des lettres.
On avait adoré, Bernard Campan, votre version polonaise du jeu.
Bonsoir et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. Et c'est au tour de monsieur Vassilievitch pour les lettres.
Consonne.
Monsieur Rybinski.
Voyelle.
Non, nous n'avons plus de voyelle. Monsieur Vassilievitch.
Plus voyelle, alors consonne.
Plus consonne. Fini. Bonsoir. Et éventuellement, pour certains, bon appétit.
Ah ouais, c'était dur quand même.
Vous deviez exploser de rire toutes les deux secondes pendant les tournages, non ?
On a bien rigolé, ouais. On aimait beaucoup inventer les prénoms, ça nous faisait, les noms des personnages, ça nous faisait rire. On faisait une prise, bon, monsieur machin changeait de prénom à chaque fois, et c'est sur des prénoms, souvent, qu'on se fendait la gueule, je sais pas pourquoi.
On reprend ce blind test spécial Télé des Inconnus avec un autre jeu. Non, c'est une roue.
Ah bah le jeu de la roue de la fortune.
Non plus.
Le millionnaire.
Exactement, le millionnaire, le générique du millionnaire. Sa roue, son million et sa Lucienne.
Alors Lucienne, c'est formidable parce que vous avez déjà gagné d'office 10 000 francs.
Oui, d'office.
D'office, oui, c'est ce que je dis. Lucienne, tout cet argent, eh bien évidemment, vous allez en profiter parce que vous allez certainement gagner beaucoup plus.
Oui, beaucoup plus.
Oui, vous pensez à quel chiffre comme ça? Allez, dites-moi.
Oui.
Oui, non, d'accord, Lucienne. Bon, on va commencer tout de suite. Lucienne.
Un million.
Et le moment est très important.
Un million.
Le moment.
Vous faisiez bien en plus l'animateur de jeu Bernard Campan. Ouais. On vous a jamais proposé de présenter pour de vrai un jeu télé?
Non, moi je j'aimerais pas faire ça. J'aime bien m'en amuser, mais j'aimerais pas présenter.
Vous en aviez tous les tics, tous les codes en tout cas.
Ouais.
Attention, voici maintenant le générique d'une émission qui avait défrayé la chronique dans les années 90 sur TF1.
Ping, ping.
Oh là là.
Alors nous on l'avait appelé Perdu de recherche, c'est Perdu de vue.
Perdu de recherche avec vous.
mari a disparu depuis 6 mois, est-ce bien exact?
Ah oui, oui, oui. Oui, mon mari est mort il y a 6 mois, c'était très triste.
Votre mari a été retrouvé grâce à toute l'équipe de Perdus de Recherche et votre mari est bien vivant, madame, oui?
C'est la télé, ils ont retrouvé Robert, Robert est vivant.
Comment ça, Robert
est vivant? Robert est vivant.
Mais nous voilà là ou quoi?
Oui, tout à fait.
Tu nous vois, Robert?
Oui.
Salut, mon pote, t'es pas mort?
C'est Jean-Louis!
Tu me reconnais? C'est moi, ton pote.
C'est mon pote Jean-Louis, c'est mon meilleur ami, oui. Ça y est, ça me revient le jour de l'accident et Jean-Louis m'a prêté sa voiture. Je venais de gagner au loto.
Vous veniez de gagner. Oh, la faute, c'est pas capable de saboter des freins.
Alors,
Steve, reste saboter les freins.
J'aurais qu'à le faire, c'est tout.
Dommage qu'on n'ait pas l'image, car là encore, Didier Bourdon s'était transformé en magnifique femme. C'était sa passion de faire les beautés fatales. Hein.
Ah, oui.
C'était bien, on aimait bien faire les femmes.
Bah, on aimait bien se travestir, faire différents personnages. Je me souviens, en tout cas, il y a beaucoup de sketchs qu'on retournait. Parce qu'on n'était pas satisfait. Là, je me souviens, c'était entre le Didier, l'intervieweur, et Pascal, là, ça avait été refait. Je crois qu'ils avaient inversé les rôles. Ils s'étaient rendu compte que c'était mieux en inversant les rôles.
C'était un travail d'orfèvre, en fait. Hein, chaque mot comptait.
C'est vrai qu'il y avait du travail, quoi. On se satisfaisait pas de peu, quoi.
Attention, voici le dernier générique de ce Blind Test. Petit indice, il s'agit à la base d'une chanson dont voici l'introduction. Histoire de chance.
La chance aux chansons.
De Charles Trenet, qui a donné son nom à la fameuse émission de Pascal Sevran sur France 2.
Aux chansons.
Pascal Sevran, que vous imitiez à merveille.
La chance aux chansons.
Alors, maintenant, on va écouter donc Gertrude Balu dans une chanson. Vous êtes accompagné par notre ami Michaud, André Michaud, à l'accordéon.
André Michaud.
Très bien. Alors, comment s'intitule la chanson?
On a toujours... quelque part 20 ans dans son cœur.
Voilà.
Je me souviens plus.
On peut toujours avoir 20 ans. Question de tempérament. C'est le secret du bonheur.
Didier Bourdon au micro.
Je m'en souviens plus. J'ai plus l'image là.
Ah bah l'image c'était quelque chose parce que en arrière-plan il y avait Pascal Légitimus qui jouait un vieil accordéoniste qui faisait une attaque en fait et qui tombait raide mort pendant la prestation de cette chanteuse.
Ça. Ils tombaient tous les uns après les
autres. C'était magnifique.
On a envie de tous les revoir.
Encore merci pour tout ça Bernard Campan.
Merci à vous, ça m'a fait du bien de réentendre tout ça. Ouais.
Et bravo à vous qui avez remporté aussi ce blind test, c'est un peu normal. 3-2, c'était quand même serré.
Oui. Ouais.
C'est donc Bernard Campan le gagnant aujourd'hui. N'ayez aucun regret, Jade.
Oui.
Vous pouviez pas gagner un blind test spécial inconnu face à l'un des inconnus.
Ça, j'en ai gagné cette année. Hein.
Ouais, pas souci.
Prochain. C'est arrivé. Celui que vous avez choisi.
Non, évidemment, on les entendra pas dans ses meilleurs moments. Ah non.
Bah oui. Voilà.
Prochain rendez-vous avec nos meilleurs moments samedi prochain 19h avec
Antoine Decaune, là j'avais gagné, Nathalie Saint-Cricq et Marie-Sophie Lacaro du 13h de TF1.
Merci d'avoir écouté On refait la télé. Retrouvez Éric Dussart et Jade tous les samedis à partir de 11h30 et quand vous le souhaitez en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et dans un instant, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier.
Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun.
ties and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night.
Nice again. We're up all night 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 again.